France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La valeur de certaines archives radiophoniques se mesure non à la quantité d'informations qu'elles recèlent ou à la qualité des discussions qui y sont menées, mais au témoignage qu'elles constituent. Témoignage d'une vision du monde, d'une façon de penser et de se représenter le monde. L'émission que vous allez entendre dans un instant, un numéro de Tribune de Paris, diffusé pour la première fois en mars 1946 sur la chaîne nationale, est l'un de ces témoignages, témoignage d'une vision du monde que l'on pourrait aujourd'hui au minimum qualifier d'ethnocentriste et qui avait cours en France et en Europe au milieu du XXe siècle. Sous le prétexte d'une question que plus personne sans doute n'oserait poser de manière aussi crue, les sauvages sont-ils heureux ? Plusieurs éminents explorateurs s'adonnent à une discussion à la tonalité désinvolte et même carrément potache autour des mérites respectifs des civilisations dites primitives et civilisées. Tout y passe, complexe de supériorité encore largement teinté d'esprit colonial, arrogance, paternalisme et même une pointe de sexisme. Vous noterez d'ailleurs que le plateau d'intervenants de cette émission était exclusivement masculin. Une lueur d'espoir et de raison apparaît néanmoins dans le propos de Paul-Émile Victor, fameux explorateur du Groenland et du Grand Nord. Paul-Émile Victor qui alerte déjà à l'époque, avec une certaine lucidité, sur les limites et les contradictions de notre civilisation occidentale. Voici donc Tribune de Paris, un véritable document radiophonique dans tous les sens du terme. Première diffusion sur la chaîne nationale le 12 mars 1946.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
Les derniers sauvages sont-ils plus heureux que les hommes de la civilisation atomique? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre explorateurs français connus. Autour de Paul Guimard, nous avons donc réuni dans notre studio Bertrand Flournoy, président du Club des explorateurs, Jean-Paul Leboeuf, Jacques Soubrier et Paul-Émile Victor. À eux quatre, nos hôtes réunissent une expérience qui va de la forêt vierge de l'Afrique centrale aux sources secrètes de l'Amazone et des confins du Kurdistan à la banquise du Grand Nord. Bertrand Flournoy, Jean-Paul Leboeuf, Jacques Soubrier et Paul-Émile Victor vont d'abord se présenter les uns les autres à nos auditeurs.
Comme président du Club des explorateurs, c'est à la fois un plaisir et une habitude de présenter mon ami Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor a dirigé la première expédition française sur la côte est du Groenland en 1934 et 1935. En 1936, il traverse l'ice cap du Groenland. En 1937, pendant plus d'un an, il va hiverner avec une famille esquimaux. En 1939, il voyage en Laponie. Puis il est attaché naval adjoint en pays scandinave. Depuis 1942, engagé dans l'aviation américaine, il est chargé par le gouvernement des États-Unis de la recherche et du sauvetage des aviateurs perdus dans les îles Aléoutiennes, en Alaska et dans le Grand Nord.
À mon tour de parler de Bertrand Flournoy qui vient de me présenter si magnifiquement. Bertrand Flournoy, en 1936-1937, dirigea la première expédition française en Amazone. Il y retourna en 1941-42, il remonta la rivière et il en découvrit les sources. À partir de 1943, il fait les campagnes d'Italie, d'Alsace et d'Allemagne. Je donne maintenant la parole à mon ami Jean-Paul Leboeuf. Veux-tu, s'il te plaît, présenter Jacques Soubrier?
C'est pour moi un plaisir de présenter mon ami Jacques Soubrier, que vous connaissez déjà. Depuis 1933, date de son premier voyage, il a beaucoup circulé. Il a accompli d'abord des voyages en Afrique. Il a fait deux traversées du Sahara, dont une à motocyclette, ce qui représente un rare courage et une très rare endurance. Puis il a séjourné dans la grande forêt tropicale inconnue où il a vécu pendant des mois chez les derniers anthropophages. Dans le Moyen-Orient, il a vécu pendant 3 ans de suite dans les dernières peuplades kurdes des confins irako-iraniens. Il a d'ailleurs consigné ce qui lui était arrivé dans un certain nombre de livres que vous avez tous lus.
À mon tour, Leboeuf, de te présenter, si tu veux. Jean-Paul Leboeuf a accompli de nombreux et longs séjours en Afrique noire de 1936 à 1939, en particulier dans la région du Tchad, où il a rapporté quantité de documents ethnographiques et archéologiques. Et en plus, il a retrouvé là les traces d'une grande civilisation disparue et son travail a modifié ce que l'on savait sur l'histoire de l'Afrique centrale. Son livre, son dernier livre, « Quand l'or était vivant », a obtenu, vous le savez, un grand succès. Et actuellement, il prépare une grande mission scientifique qui partira bientôt pour l'Extrême-Orient.
Je crois tout de même que, sans avoir la connaissance de ces messieurs, j'ai pas mal voyagé, j'ai vu pas mal de pays. Mon grand regret est justement de ne pas avoir vu ce qu'il est convenu d'appeler des sauvages. Par contre, en ma conception du mot « sauvage », dans tous les pays que j'ai vus et que je vois encore, je n'ai pas à me plaindre, j'en vois.
Bon, alors reposons la question. Croyez-vous, messieurs, que les sauvages sont plus heureux que nous?
Paul Émile, raconte un petit peu tes souvenirs. Dis-nous ton opinion du Groenland.
Eh bien, il est assez difficile de dire une opinion sur une population déterminée. Je crois qu'il est beaucoup plus facile de généraliser. Il n'y a pas de doute que, dans mon opinion, les sauvages sont beaucoup plus heureux que nous. Si je dois répondre à la question posée de cette façon-là, je dirais que la raison principale est la suivante. Les primitifs, pour ne pas les appeler des sauvages, ont beaucoup moins de besoins que nous. Par conséquent, il leur est beaucoup plus facile de satisfaire ces besoins. Un être qui n'a qu'une dizaine de besoins à satisfaire, qu'une dizaine de désirs, et qui les satisfait, est heureux. Nous en avons beaucoup trop. Et nous n'arrivons par conséquent pas à les satisfaire, et c'est une des raisons fondamentales, je crois, pour laquelle il nous est impossible à nous, dits civilisés, d'être heureux.
Est-ce que c'est votre avis également, vous
mais,
autres?
Permettez, Paul Émile est un charmant ami, mais je ne suis pas du tout de son avis.
C'est Jacques Soubrier qui intervient?
Soi-même. Et je ne suis pas du tout de l'avis de Paul Émile Victor, parce que je crois qu'au contraire, les sauvages, non, on ne peut pas dire les sauvages, je dis les primitifs sont très malheureux, au contraire. Je pense que ce sont des gens qui vivent sous l'effet de la terreur, d'une terreur mystérieuse, en particulier je pense à ceux qui vivent dans la grande forêt tropicale par exemple, et j'imagine que leur sort n'est pas du tout enviable. Puis enfin il y a un autre point de vue, c'est le point de vue de la cuisine. Permettez que je passe à un sujet un peu terre à terre, mais si on en juge par les Kurdes par exemple, ces gens qui mangent de la galette de gland, et qui boivent du petit lait sûr, et qui mangent des œufs pas frais frits dans du beurre rance, eh bien ça pour moi c'était pas le comble du bonheur. C'est une opinion, remarque une chose, mais je ne la défends qu'à moitié.
C'est une opinion, et c'est une opinion d'hommes blancs civilisés qui compare avec notre propre civilisation. Peut-être sont-ils très heureux tels qu'ils sont.
Ça n'a aucune importance ce qu'on mange, mais ce qui est intéressant...
Tu dis ça, l'autre jour au dîner, t'étais bien content d'avoir des petites barquettes, je ne sais pas trop quoi.
C'était du reste épouvantable. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'on mange, c'est le goût qu'on en éprouve. Bon, c'est exactement quand tu fais l'amour. Quand tu es avec une vilaine femme et qu'elle te plaît, ça fait beaucoup plus d'impression que si tu es avec une très jolie femme et qu'elle ne te plaît pas.
Oui,
seulement si pendant des mois et des mois tu es forcé de manger de la galette de mille, eh bien vraiment tu auras envie un beau jour de manger du beefsteak et de boire du vin rouge.
Jamais la vie.
C'est la chose qui m'a manqué le plus, c'est un verre de vin rouge et un bon beefsteak.
Oui, mais la question n'est pas de savoir ce que toi, Jean-Paul Leboeuf, ce qui t'a manqué, c'est de savoir si les primitifs sont plus heureux que nous. Or, s'ils sont plus heureux à ne manger que de la galette, qu'est-ce que nous allons faire chez eux pour leur apprendre à manger du beefsteak?
Ah mais ça, je suis entièrement de cet avis, je trouve qu'il faut les laisser tranquilles. Je suis entièrement de l'avis de Paul Émile Victor pour ça, et d'ailleurs...
Ah oui, mais ça, c'est contraire aux décisions de l'ONU, non? Il faut civiliser les peuples primitifs.
Je vois tout de même une chose, c'est que nous autres qui sommes... moi qui représente le civilisé aujourd'hui... Je veux dire que j'ai beaucoup surpris les peuples anglo-saxons en leur disant que j'aimais beaucoup les escargots et les grenouilles. Ils m'ont regardé avec un petit œil absolument ahuri et assez dégoûté.
Mais ça ne vaut pas le foie humain, malgré tout.
Ah, ça, je ne sais pas, je n'en ai pas encore goûté.
Il faut goûter.
Je dois dire que moi, j'aime beaucoup les grenouilles, j'aime beaucoup les escargots, et que j'ai eu l'impression d'être un sauvage vis-à-vis des anglo-saxons quand je leur ai parlé des délices palatiales, ou palatiaux plutôt, des grenouilles...
Palatial,
oui, amour délicieux.
Bon, il semble donc que la civilisation, sur le plan culinaire, tout au moins, soit quelque chose de très relatif.
Attends, les petits fours à la moutarde des Américains. Enfin,
voulez-vous que nous abordions un autre plan?
Je crois qu'on peut dire que, en principe, ce n'est pas sur la cuisine qu'on peut juger une civilisation et la valeur d'une civilisation. Mais il y a beaucoup d'autres choses, ne serait-ce par exemple que l'évolution d'un homme, l'évolution d'un individu, l'évolution d'un Indien, tout ce qu'il essaie de faire pour se libérer de la nature. pour se libérer de la terre, ce qui véritablement a une empreinte extrêmement dure chez lui. Eh bien, à cause de cela, on peut dire, je crois, que les peuples indigènes sont heureux. Comme le disait Paul tout à l'heure, ils ont beaucoup moins de besoins que nous. Et parce qu'ils ont beaucoup moins de besoins, ils sont passifs. Et étant passifs, ils ont évidemment une connaissance moindre que nous du bonheur, mais une connaissance certainement beaucoup plus solide.
Mais Jean-Paul Lebeuf. Je ne suis pas du tout d'accord, je ne trouve pas du tout que ce soit des gens passifs. Tout au moins pour l'Afrique, c'est très différent. Il n'y a pas de peuple qui aime plus vadrouiller que les Africains. Et c'est une des choses les plus remarquables de la paix qui règne actuellement dans les colonies françaises, c'est que les Noirs passent leur temps à circuler. Ils n'ont qu'une idée, c'est de circuler, de voir ce qui se passe. Et je me souviens un jour, me trouvant à Kano, un garçon de 12 ans est venu me trouver et m'a dit « Puisque tu vas à l'Est, emmène-moi, je ne connais pas l'Est. » Il connaissait le Nord, le Sud et l'Ouest, mais pas l'Est.
On a l'impression que notre ami Jean-Paul Lebeuf a 12 ans, il croit encore au voyage. Il croit encore au plaisir du voyage.
C'est fini, ça, c'est fini, ça.
Monsieur, estimez-vous que les sauvages, si sauvages il y a, soient ou non heureux?
Permettez-moi un petit mot.
Je vous en prie.
Peut-être idiot, remarquez-moi.
Non.
Oui. On peut toujours essayer. Eh bien, moi, je crois qu'on peut comparer les primitifs à des enfants. C'est pas une chose très nouvelle, d'ailleurs.
C'est pas très gentil.
Pourquoi? Parce que tu es un enfant?
Non, parce que je ne suis pas un enfant, mais c'est pas gentil, parce que encore une fois, parce que ce sont des gens qui n'ont pas notre civilisation.
Mais tu ne sais pas ce que je vais dire.
Oui, mais enfin, c'est quelque chose.
On peut tout de même les comparer un peu à des enfants. Et il y a des cas où leurs douleurs sont très grandes, leurs peines sont très grandes, et remplacées immédiatement par des joies très grandes. C'est des enfants, tu as des enfants, peut-être, non?
Il en a pas. Pas encore.
Ben, les enfants passent du rire aux pleurs extrêmement rapidement. Ben, je crois qu'il y a des gens qui sont très heureux, et puis d'autres qui sont très malheureux, et ceci avec ces sautes brusques, très rapides. Et au fond, il est difficile de faire une moyenne pour dire ils sont heureux, ils sont pas heureux, c'est un point de vue qui me paraît un peu spécieux.
Paul-Émile Victor, vous avez quelque chose à dire?
Oui, je voulais dire ceci, c'est que il est possible probablement de répondre de la façon suivante, c'est que dans leur sphère, les primitifs sont probablement tout aussi heureux et tout aussi malheureux que nous. Comme chez nous, il y en a qui se rendent plus compte de leur bonheur ou plus compte de leur malheur, et d'autres qui, au contraire, sont plus insensibles.
Oui, les philosophes, comme partout.
Il y a des philosophes chez les primitifs, il y en a chez nous aussi.
Mais il y en a moins
chez nous,
heureusement.
Il y a des pessimistes et des optimistes, naturellement.
Bon, mais évidemment, la grande différence qui existe entre ce qu'on appelle le primitif, qu'il soit du Groenland comme chez toi, d'Afrique ou même du Proche-Orient, il y a la grande différence entre les primitifs et nous. Ce n'est pas tellement une affaire de technique, ce n'est pas tellement une affaire de nourriture, une affaire de chasse, une affaire de pêche. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une affaire de position vis-à-vis de la nature et une affaire de position vis-à-vis de l'esprit. C'est ce qui différencie complètement les primitifs de nous, beaucoup plus que le fait que l'Indien de l'Amazonie porte un pagne, ou que tes Esquimaux à toi portent des vêtements compliqués et qui réchauffent, ou que les Noirs de notre ami Jean-Paul Lebeuf portent une liane ou une ficelle pour leur maintenir le pénis sur le ventre. Ce n'est pas tellement ça ce qui fait la différence entre les primitifs et nous. Ce qui fait la différence, c'est exactement la position des hommes vis-à-vis de l'esprit. Et en face des primitifs, nous faisons absolument l'impression, nous donnons l'impression d'être des hommes absolument libérés de la nature. Et c'est là la grande différence, c'est pour ça que nous pouvons mal juger peut-être de leur joie, de leur tristesse, mais que nous pouvons tout de même en juger avec notre technique et avec notre compréhension de blanc, de civilisé, d'hommes libérés.
Et voulez-vous permettre, Paul-Émile Victor?
Tu viens de dire, Bertrand, tu viens de dire que nous sommes libérés de la nature. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. J'ai l'impression que notre civilisation matérielle qui a su, jusqu'à un certain point, capter la nature, ne nous a pas libérés, au contraire, nous a rendus esclaves. La force, par exemple, pour ne parler que de la bombe atomique, puisqu'elle est aujourd'hui tout à fait à la mode, la force même de cette bombe atomique nous dépasse. Et mon point de vue est un peu différent du tien. Je dirais ceci, c'est que chez le primitif, le rayon d'action de son corps est à peu près le rayon d'action de la pierre qu'il peut lancer avec sa pierre, avec sa main. Chez nous, ce rayon d'action a été développé par les possibilités de l'aviation et de la bombe. L'âme chez le primitif est parfaitement adaptée à ce rayon d'action. Cette âme n'a pas changé chez nous. Nous avons une âme trop petite pour les possibilités de notre corps. Et c'est pourquoi, loin d'être libérés de la nature, nous sommes beaucoup plus esclaves d'elle que les primitifs. Parce que notre mentalité n'est pas prête à recevoir ce que notre culture matérielle nous a donné. Nous sommes en quelque sorte comme un enfant de 5 ans à qui on aurait donné une mitrailleuse et qui n'aurait pas l'intelligence, qui n'est pas prêt à savoir manier cette arme sans qu'elle ne saute dans ses doigts.
C'est l'apprenti sorcier. Absolument pas.
Absolument pas de ton avis, parce que, enfin du moins c'est mon opinion, Nous sommes exactement vis-à-vis de la nature comme le sorcier est vis-à-vis de la nature, par exemple, chez les peuplades indiennes. Le sorcier, c'est vraiment l'intellectuel, c'est l'homme qui sait par des formules magiques, par exemple, et par des gestes, contrecarrer l'action de la nature, c'est-à-dire l'utiliser, utiliser les lianes, utiliser les plantes, dans un but de protection de la communauté, dans un but de vocation, donc dans un but bienfaisant. Eh bien, je crois qu'on peut parfaitement comparer un savant de laboratoire ou un ingénieur, qu'on peut parfaitement le comparer à un sorcier, puisque la formule scientifique, à mon avis, est exactement semblable à la formule magique.
Ce serait peut-être en effet exact s'il y avait des sorciers chez nous qui seraient préparés intellectuellement comme les sorciers, toute proportion gardée, chez les primitifs. Or, nous n'avons pas de sorciers chez nous qui intellectuellement sont prêts à garder pour eux la force de la nature qui va nous dépasser un de ces jours.
Aucun sorcier ne garde pour lui la force de la nature, il en fait bénéficier son groupe, il en fait bénéficier sa famille.
Il la contrôle.
En somme, si je vous comprends bien, il n'y a jamais que deux civilisations qui s'affrontent. La civilisation des primitifs et la nôtre.
Du reste, elles ne s'affrontent pas, à mon avis, puisque le primitif tend toujours à se libérer de la nature par toutes les possibilités qu'il a, par ses techniques et par les moyens qu'il nous apporte.
C'est-à-dire attendre vers notre civilisation.
C'est-à-dire attendre vers la formule de notre civilisation, c'est-à-dire la libération de la nature et à la valeur de l'esprit.
Par conséquent, ils ne s'estiment pas heureux.
Si, puisqu'ils ils s'estiment heureux tant qu'ils n'ont pas, à mon avis, connaissance de notre civilisation.
Parfaitement vrai.
Bon, alors je pense qu'on peut peut-être poser la question d'une autre façon. Estimez-vous, vous autres, qui êtes explorateurs, que vous apportez quelque chose aux primitifs? Enfin, je prends un exemple. Fernand Gravel, en supposant que vous soyez un sauvage accroupi devant votre case avec des plumes dans la tête et en train de dévorer les restes de votre vieux père...
Je serais ravissant.
Est-ce que vous estimez que les explorateurs qui viendraient vous découvrir vous apporteraient quelque chose?
Eh bien, écoutez, je vais me permettre de répondre à cette question par une autre question que je vais poser à Paul-Émile Victor, à Jacques Soubrier, à Bertrand Flournoy et à Jean-Paul Leboeuf. Voilà, je vais poser la question suivante. Croyez-vous que dans les populations ou les peuplades ou les tribus dites sauvages ou primitives, ils pourraient, entre eux, avoir une discussion comme nous en avons une ce soir sur notre civilisation?
Messieurs, à vous de répondre. Paul-Émile Victor.
Je dirais que certainement des discussions semblables ont lieu. Nous, nous pensons toujours aux populations qui sont éloignées de nous comme si elles étaient au bout du monde. Et il nous arrive jamais de penser que pour ces populations, nous, nous sommes au bout du monde. De la même façon, ils se réunissent et discutent des Blancs exactement comme nous discutons d'eux, avec la même incompréhension et avec des angles tout à fait similaires.
Soubrier.
Eh bien, si vous voulez, je vous dise exactement ce que disent les primitifs sur les Blancs. En général, en parlant des Noirs, enfin, nous parlons des primitifs de l'Afrique, par exemple, ils disent « le blanc, c'est le type qui perçoit l'impôt ». Voilà exactement ce qu'il dit. Avec ça, vous pouvez tirer l'échelle.
Oui, et je me souviens, me trouvant dans certaines parties d'Afrique, je suis entré dans un village et tous les indigènes, tous sont partis parce qu'ils pensaient justement que je venais chercher l'impôt. Je dois dire que jamais, je n'ai perçu l'impôt, d'abord parce que ça ne me regarde pas, puis ça ne m'intéresse pas, mais... En général, je leur apportais de l'argent. À propos d'impôts, il faut que je raconte une petite histoire, si vous permettez. J'étais dans un pays dans lequel les objets que j'achetais coûtaient 10 sous, 5 sous, 1 franc, 2 francs, et un beau jour, ils ont coûté 5 francs, 3 francs ou 8 francs. Je ne comprenais absolument pas, et j'ai eu l'explication suivante. Eh bien, c'est que, justement, ces indigènes avaient leur impôt à payer. L'impôt était de 5 francs pour un homme, 3 francs pour une femme, soit 8 francs pour un ménage, d'où le changement de prix de ces objets.
Je voulais dire quelque chose à propos de la question telle qu'elle a été posée. La question a été, est-ce que nous apportons quelque chose aux primitifs?
Exactement.
Eh bien, je dirais ceci, notre rôle d'explorateur n'est pas d'apporter quelque chose aux primitifs. Notre rôle, au contraire, est de les étudier tels qu'ils sont. Si possible, en faisant abstraction de ce que la civilisation leur a apporté.
Par conséquent, vous estimez que ce sont plutôt les primitifs qui nous apportent quelque chose?
Il n'y a pas de doute à cela. Ce sont les primitifs qui nous apportent une connaissance que nous n'avons pas, connaissance qui peut nous servir dans le bâtissement d'une histoire des civilisations ou de la sociologie.
Bertrand Flournoy, vous avez quelque chose à dire?
Bien, si j'ai bien compris la question de notre ami Fernand Gravel, la première chose qu'il nous a demandé, c'est si les indigènes avaient des discussions comme nous en avons ce soir. Il est incontestable qu'ils ont la possibilité de la libre discussion, mais que cette libre discussion ne porte que sur les sujets qui les intéressent. Je parle évidemment des Indiens de l'Amazone que nous avons visités et dont un certain nombre n'avait jamais vu de blanc.
Il n'y a pas de censure, si je dis non.
Par conséquent, les problèmes qui se posent pour nous ne se posent absolument pas pour eux. Ce sont des problèmes très simples, des problèmes de chasse, des problèmes de pêche, des rapports, par exemple entre tribus ou entre groupes, quand la guerre ou quand les meurtres sont décidés. Maintenant, Paul Émile a abordé une question qui est extrêmement importante pour nous, savoir si nous, explorateurs ou voyageurs scientifiques, apportons quelque chose de valable à l'Indien, nous ne lui apportons rien. Eh bien, en principe, l'explorateur n'apporte rien. Quand il part dans la forêt, il est en quelque sorte nu avec ses tests, avec ses techniques. Il est extrêmement différent du missionnaire ou du colon qui lui va, ou du militaire qui lui va dans la forêt ou va dans le bled pour réaliser un travail. Alors qu'au contraire, un travail, je veux dire, de colonisation, un travail de persuasion, il a la foi, n'est-ce pas? Pour lui, les techniques ne sont qu'un moyen. Tandis que pour nous, la technique de travail est véritablement un but. Ce que nous voulons rapporter, c'est le fruit des comparaisons entre l'état des Indiens, entre l'état des indigènes et notre état à nous.
Et ceci pour nous servir à nous civiliser.
Bien entendu.
Oui, d'abord, notre connaissance scientifique du monde et des gens.
Nous allons trop loin d'ailleurs dans ce sens-là et nous avons trop tendance, ce sont les tendances récentes d'ailleurs de la science, de considérer ces gens comme exactement comme nous considérons les échantillons minéralogiques. Nous pensons beaucoup trop peu que ce sont des hommes, ce sont des gens qui ont des réactions humaines, exactement comme nous en avons, qui sont souvent assez différentes, et tout au moins différentes en surface, parce que le fond est exactement le même. Mais disons les choses franchement, en général, quand nous arrivons dans une population dite primitive, nous sommes tout au moins au premier abord des troubles faits.
Ça c'est très juste. On a l'air même un peu ridicule même, on a l'air un peu idiot.
On a l'air assez primitive. Oui.
L'histoire du type du civil qui est dans une caserne.
Oui, c'est
un type en civil,
c'est pire, mais ce n'est vraiment pas peu dire.
Enfin, si, en tant qu'explorateur, j'avais un jour à découvrir M. Fernand Gravet dans une case, je me dirais, nom d'un chien, la civilisation a du bon.
Ah oui, ça, je suis tout à fait de cet avis-là.
Car je le verrais avec sa petite moustache, son beau costume en étoffe anglaise, sa jolie cravate bleue et rouge, et puis cet œil vif. Et puis, enfin, je me souviens tout de même de M. Fernand Gravet en Allemagne. Et tout ce qu'il a apporté aux soldats de la première armée, par exemple.
Qui n'étaient pas des primitifs, mais pourtant il apportait des choses.
Qui n'était pas des primitifs?
Les soldats,
je parle. Ah bon.
Et lui, il n'était pas explorateur, il apportait tout de même.
Oui, oui.
En somme, nous avons posé la question, avons-nous à regretter d'être des civilisés? Voudrait-il mieux que nous soyons des primitifs? Et je vais vous demander de conclure. Bertrand Flournoy.
Eh bien, nous n'avons pas à regretter d'être des civilisés, certainement pas. Le primitif a ses préoccupations. Le primitif a ses peines. Le primitif vit dans un habitat qui lui est difficile de comprendre. Il doit lutter contre des tas de choses, contre des tas de problèmes qui ne sont pas les nôtres. Le primitif n'est pas plus heureux que nous. Il n'est pas plus malheureux que nous. Il vit dans un monde différent du nôtre. Maintenant, nous avons atteint un stade de civilisation tel qu'il est absolument impossible de faire marche en arrière. Nous devons donc tenir compte de ce que nous avons acquis, de ce que nos pères, de ce que nos grands-pères ont acquis à travers les siècles, avec leurs souffrances, en tenir compte et les améliorer chaque jour.
Je vous remercie, Jean-Paul Leboeuf.
Moi, je suis tout à fait de cet avis-là. Je pense aussi, comme vient de le dire Bertrand Flournoy, et ça ressort aussi de ce que disait tout à l'heure Fernand Gravet, nous n'avons pas regretté d'être de ce côté-ci de la barricade, mais si notre civilisation a des avantages, il est tout de même nécessaire que de temps en temps, nous allions nous purifier l'esprit en allant vivre dans des civilisations qui sont encore proches de la nature.
Jacques Soubrier.
Tout à fait d'accord, je n'ajoute absolument rien. Je crois que notre civilisation a beaucoup d'inconvénients, le marché noir, la vie chère, le manque de pommes de terre et cette sacrée bombe atomique qui vraiment est bien ennuyeuse. Mais qu'au total, il vaut encore mieux faire partie des civilisés. Il est bon en effet, comme tu le disais, d'aller de temps en temps se rafraîchir un peu, 6 mois ou 1 an ou plus, chez les primitifs, mais enfin, rien ne vaut cette bonne ville de Paris en particulier. C'est une conclusion qui n'est pas très philosophique, mais enfin, qui a peut-être sa petite valeur.
Paul-Émile Victor.
Eh bien, pour conclure, je crois que je prendrai le raisonnement que les Anglais se tenaient pendant la guerre. Raisonnement qui, pour nous, pourrait se résumer de la façon suivante. Nous n'avons pas à regretter d'être décivilisés, et nous n'avons surtout pas à nous en faire. Le raisonnement, le voici. De deux choses l'une, ou bien la prochaine guerre a lieu ou elle n'a pas lieu. Si elle n'a pas lieu, nous n'avons pas lieu de nous en faire. Si la prochaine guerre a lieu, de deux choses l'une. Ou bien la bombe atomique tombe sur votre ville, ou elle n'y tombe pas. Si elle n'y tombe pas, il n'y a pas moyen de s'en faire, il n'y a pas raison de s'en faire. Si elle tombe sur votre ville, de deux choses l'une. Ou bien elle tombe sur votre maison, ou elle n'y tombe pas. Si elle ne tombe pas sur votre maison, il n'y a pas de raison de s'en faire. Si elle tombe sur votre maison, de deux choses l'une. Ou elle vous tue, ou elle ne vous tue pas. Si elle ne vous tue pas, il n'y a pas de raison de s'en faire. Et si elle vous tue, ben vous êtes mort, alors vous ne vous en faites pas. Donc, d'une façon générale, ne pas s'en faire.
Nous aurions été heureux de connaître la conclusion de Fernand Gravet. Hélas, Fernand Gravet s'est éclipsé tout aussi discrètement qu'il était arrivé. Nous ne vous donnerons donc pas, pour cette fois, l'avis du civilisé.
Vous venez d'entendre sur les peuples dits sauvages et nous, une discussion à laquelle ont pris part Fernand Gravet et quatre explorateurs français, Bertrand Flornoy, Jean-Paul Leboeuf, Jacques Soubrier et Paul-Émile Victor. Notre émission est terminée.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 12 mars 1946.